France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
2 115 937 signatures. Voilà où en est précisément la pétition contre la loi Duplomb déposée sur le site de l'Assemblée nationale début juillet. Et que l'on soit pour, que l'on soit contre, force est de constater le succès inédit de cette mobilisation citoyenne. Du baume au cœur pour toute une génération de militants écologistes qui témoignent depuis quelques années maintenant de la difficulté à militer et d'un certains sentiments d'impuissance. Ils ne sont pas les seuls. Dans les associations, partis politiques, syndicats, cette fatigue militante semble de plus en plus prégnante. Les raisons évoquées sont nombreuses. La dureté de l'époque, le coût du militantisme aussi dans la vie sociale ou professionnelle, où l'engagement pour des causes, quelles qu'elles soient, n'est pas toujours bien perçu, loin de là. Et puis, la violence qui se déchaîne parfois sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie contre les militants ou les élus. Hier encore, un maire violemment agressé en Isère. Alors ce soir, on va se demander, réfléchir ensemble ce que l'on pourrait faire collectivement pour protéger ceux qui s'engagent. Faut-il davantage de prévention ou d'écoute dans les associations, partis ou syndicats? Est-ce possible de militer joyeusement? L'engagement peut-il encore rimer avec épanouissement? On vous donne la parole. Avez-vous déjà milité dans votre vie? Vous êtes-vous parfois senti épuisé émotionnellement, psychologiquement, jusqu'à vivre un burn-out militant? Et puis, vous nous direz si pour vous, avant, c'était plus facile, ou est-ce que l'engagement comporte forcément une grande part de sacrifice qu'il faut savoir accepter? Vos questions à nos invités et vos témoignages au 01 45 24 7000. Venez nombreux, on est ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et en ligne avec nous ce soir, Nikita de Paris. Bonsoir Nikita.
Ouais, salut de Noisy-le-Sec. Oui, je suis ravi d'intervenir sur votre antenne pour relater mon expérience personnelle de militantisme face à une problématique qui était celle des réfugiés à Paris sur les campements où je m'évertuais à donner la contradiction au discours officiel de notre classe de hauts fonctionnaires et de politiques. Et des gens qui essayent d'évacuer un problème qui est prégnant, qui est des gens qui campent dans la rue, en les dispersant aux quatre vents pour faire en sorte que le problème n'existe plus. Et que vous, en tant que militant, vous essayez d'attirer l'attention sur ces pauvres airs venus d'ailleurs qui campaient sur le trottoir à Paris. Et que, bon, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, y compris par le squat Jean Carré, jusqu'à Calais, avec une sorte de sacerdoce, quoi, pour essayer de faire advenir la vérité de la situation. Parce que ignorer le problème n'est pas régler le problème. Et on peut encore en dire quelque chose aujourd'hui.
Face
à ça, vous avez un tir de barrage qui va de votre voiture mise en fourrière jusqu'au contrôle fiscal, parce que vous êtes ciblé. Vous êtes photographié par tout un tas de services, traité de terroriste, et le militantisme peut très vite être accusé de tout un tas de mots, et que bon, il y a un moment où vous jetez l'éponge. Vous êtes seul, c'est le mythe de Sisyphe, vous roulez votre pierre, elle retombe, vous roulez votre pierre, elle retombe, et en tant que citoyen français, en tant que citoyen tout court d'ailleurs, de cette planète, sur des sujets aussi vastes que celui des réfugiés, vous êtes face au rouleau compresseur du politiquement correct gouvernemental qui ne veut pas traiter le problème parce que pour eux c'était un risque politique qui n'était pas porteur électoralement, donc ils voulaient surtout pas qu'on en parle de trop du problème. Et des petits énergumènes de mon espèce qui faisaient un peu de barouf sur les médias, y compris sur cette antenne, et surtout des BFM et compagnie, j'ai fait je sais pas combien d'interviews, il y a un moment où vous jetez l'éponge parce que vous êtes lessivé, javelisé, déprimé, et que vous vous rendez compte que la France, pays républicain s'il en est, démocratique, encore faut-il le préciser, est en contradiction avec, par exemple, ne serait-ce que la charte de l'ONU, parce que la charte de l'ONU prévoirait que tout le monde a le droit de se déplacer à la surface de cette planète, mais en même temps, chaque membre de l'ONU, chaque nation, a le droit de contrôler ce qui se passe sur son territoire. Mmh. Et donc, vous êtes là en train de dire, il y a un problème.
J'entends.
Et plus vous dites qu'il y a un problème, et plus ils disent, ta gueule.
Je comprends ce que vous me dites, Nikita. Je comprends, voilà, la solitude, on va en parler beaucoup, sûrement, dans cette émission, la solitude des militants, même parfois au sein de certaines organisations. Pour en discuter, ce soir, avec nous, Raphaël Rémy Leleu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes militante écoféministe, conseillère de Paris écologiste, autrice de Beyoncé est-elle féministe, et puis vice-présidente d'Elu.e.s. En ligne ce soir aussi avec nous, Vanessa Jérôme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, docteur associé au CESSP à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit une thèse intitulée « Militants de l'autrement, sociologie politique de l'engagement et des carrières militantes chez les Verts ELV ». Et puis, Julien Talpin, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne depuis les studios d'ICI Orléans. Vous êtes chercheur au CNRS et vous travaillez notamment sur l'engagement dans les milieux populaires. Alors, on va venir au témoignage de Nikita, bien sûr, mais il y a une actualité là qui vient de tomber à 19h et qui est aussi importante, je pense, dans cette émission. C'est cette décision du Conseil constitutionnel de censurer partiellement la loi Duplon, de censurer notamment la réintroduction de ce nicotinoïde dont on a tellement parlé, l'acétamipride. Raphaël Rémy Leleu, je vous passe la parole. Comment vous réagissez ce soir à cette censure partielle ?
Bon, déjà, je confesse qu'il y a encore quelques secondes, j'étais en train de lire la décision pour essayer de voir tout ce qu'il y a dans cette décision. C'est vrai qu'il y a la censure de la réautorisation de l'acétamipride qui est une vraie victoire, parce que c'était un danger public en fait de réintroduire ce pesticide. C'est un danger pour la santé, c'est un danger pour le modèle de production. Et puis il y a également des limites qui ont été posées sur les mégabassines. Donc finalement ce soir, on se dit que le Conseil constitutionnel a fait son travail. Et qu'en fait, et y compris par rapport au témoignage de l'auditeur de Nikita, finalement on a quand même un état de droit qui tient encore un peu la route, y compris face au climato-scepticisme qu'on a vu se déployer ces dernières semaines, appuyé par des lobbies très puissants. On a quand même réussi là une première étape qui est de faire entendre raison sur certains points. Après, il y a beaucoup de choses qui restent très problématiques dans la loi Duplon et on va continuer de porter le combat politique.
Pour vous, c'est possible que ça soit la mobilisation militante et cette fameuse pétition dont j'ai parlé en introduction qui a pu quand même un peu payer ce soir ?
Je pense que la mobilisation militante, que la pétition ont payé, ne serait-ce que parce que, véritablement, c'est devenu un enjeu majeur du débat public. Ce à quoi on ne s'attendait pas par rapport au milieu de l'été, par rapport à la folie du rythme parlementaire de ces derniers mois, c'était déjà une première victoire. Je ne suis pas certaine, et finalement je n'espère pas, que ça a eu une influence directe sur la décision du Conseil constitutionnel.
Normalement non, hein, parce qu'il juge vraiment sur les recours qui sont déposés par les parlementaires.
C'est ce que je vous disais sur l'état de droit, et d'ailleurs je remercie nos parlementaires d'avoir déposé ce recours. Après, ce que j'espère, c'est que la pétition, la mobilisation, tous les arguments qui ont été portés, y compris par exemple par l'Ordre des médecins, qui ne sont pas connus pour être d'affreux gauchistes tout de même, que tout cela finira de réveiller le gouvernement, finira de réveiller le président de la République, et que soit ils offriront aux parlementaires l'opportunité et le droit qui leur a été refusé, à savoir celui d'examiner la loi en séance et de voter sur la loi en séance, soit de refuser de publier cette loi et d'en faire un texte qui s'applique.
Vanessa Jérôme, que diriez-vous, vous, de cette pétition ? C'est quand même une pétition qui est pas anodine, plus de 2 millions de signatures. C'est la pétition la plus signée dans l'histoire française derrière l'affaire du siècle, mais là, il y a une petite particularité, c'est que c'est sur le site de l'Assemblée nationale, donc il faut s'identifier. Donc, c'est pas juste un clic, pour résumer. Vous, quel regard vous portez dessus ? Est-ce que c'est inédit ?
Bah oui, vous venez de le dire, c'est la pétition la plus signée de la Ve République, donc oui, c'est inédit. Je crois que ce qui est intéressant dans cette pétition, c'est peut-être le caractère pluriel des signataires. On a des militants, on a des citoyens qui sont engagés, qui sont sensibilisés aux causes écologistes, de santé environnementale ou de transformation du monde agricole, mais il y a aussi tout un tas d'acteurs, et notamment effectivement, Raphaël Rémy Leleu le mentionnait, des médecins qui sont pas connus connu pour être particulièrement toujours très progressiste, qui se sont joints à cette pétition. Donc ça veut dire que malgré tout, malgré des reculs, malgré des échecs, malgré des déceptions, des lassitudes, eh bien la mobilisation, le travail militant, au bout d'un moment, ça paye, ça alphabétise les citoyens, ça leur permet de comprendre les enjeux, et ça prouve aussi que quand on explique, quand on fait de la pédagogie, quand on donne aux citoyens et aux professionnels de santé les moyens de comprendre les enjeux derrière les décisions qui sont prises par les gouvernants, eh bien il y a une forme non seulement de compréhension, mais en plus de mobilisation, et ça paye. Donc pour répondre peut-être à votre auditeur, à Nikita, qui disait, voilà, c'est un peu Sisyphe, eh bien je reprendrai le mot d'Albert Camus, hein, il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà, des fois, il y a des bonheurs dans un océan de choses qui paraissent à la fois absurdes et décourageantes.
Oui, il parlait beaucoup de ce que je ressens. Enfin, le mot qu'il emploie, c'est solitude, beaucoup. Et finalement, là, il y a un peu un contre-exemple, même si c'est numérique, cette pétition, quelque part, ce que j'entends, ce que vous dites, c'est que là, tout d'un coup, beaucoup de gens, justement, se réunissent dans un même combat, alors que Nikita, ce qu'on sent, c'est qu'il était, l'impression d'être tout seul à mener de front son combat à lui.
Mais en fait, les deux sont vrais. C'est-à-dire, le militantisme, c'est justement ça. C'est-à-dire, voilà, à un moment donné, pourquoi on milite ? Parce que l'état du monde ne nous convient pas, qu'on veut le transformer et qu'on a une certaine vision de la manière dont on veut le transformer, avec des valeurs, des croyances, etc. Et des fois, il y a des moments d'immense solitude, et puis il y a des moments un peu bénis, ça arrive parfois dans les campagnes électorales, quand on les gagne, ou quand on les a trouvées belles, même si on a perdu, ou dans des moments comme ça, où on arrive à influencer quand même un peu, ne serait-ce que à défaut de la décision du gouvernement, le droit, à faire valoir son bon droit, mais il y a des moments un peu bénis comme ça, où on retrouve du collectif, où on retrouve cette puissance finalement de l'être ensemble et de l'agir ensemble qui fait aussi le militantisme.
Julien Talpin, est-ce que ça raconte aussi cette pétition peut-être une mutation de ce qu'est le militantisme ?
Le processus qui a conduit jusqu'à ces plus de 2 millions de signatures, effectivement, tient à certaines innovations, puisque ça ne part pas d'organisations militantes structurées au départ. Hein, c'est une initiative individuelle d'une étudiante. Ça a été ensuite relayé par des influenceurs. Le rôle des réseaux sociaux a été important. Ça a été souligné. Donc, il y a une part, effectivement, d'innovation qui explique le succès. Il y a malgré tout aussi, en arrière-plan, le rôle d'organisations militantes plus traditionnelles. Je pense notamment à des associations environnementales qui s'étaient mobilisées au moment de la préparation de cette proposition de loi et qui ont fortement relayé la pétition une fois que celle-ci a commencé à décoller. Et donc, il ne faut pas uniquement voir ce succès comme voilà, quelque chose de parfaitement spontané. Il y a aussi une infrastructure militante, un travail militant, comme l'évoquait Vanessa Jérôme, qui explique qu'on arrive, pas par magie, mais justement par ce travail, ce bouche à oreille, où les associations aussi jouent un rôle important. Ouais.
Allez, nous sommes en ligne avec Daniel de Haute-Savoie. Bonsoir Daniel.
Bonsoir Daniel. Bonsoir madame. Excusez-moi de...
Il n'y a aucun souci.
Oui, c'est la première fois que je téléphone. Je suis contente de pouvoir apporter mon témoignage. J'habite en Haute-Savoie, entre Annecy et Albertville. Albertville est en Savoie. Et nous avons un gros problème de circulation le long du lac d'Annecy, donc qui va d'Annecy à Doussard-Faverges, où j'habite. Et il y a vraiment des embouteillages de façon récurrente et donc on essaye de lutter contre ces embouteillages et la pollution que ça engendre, aussi bien toute l'année avec les gens qui travaillent que été-hiver avec les touristes qui sont extrêmement nombreux sur notre région. Donc il y a déjà plusieurs associations qui se battent pour avoir un tram qui ferait la liaison le long du lac. Ouais. Et moi j'habite au bout du lac, donc les autres associations sont plutôt situées sur Annecy. Moi j'ai apporté le plus d'aller jusqu'à Albertville, de relier nos deux Savoies. Ça paraît mission impossible. Et il y a eu une concertation qui a été organisée par la mairie d'Annecy. Et vraiment, on a le sentiment de ne pas avoir été entendu du tout, du tout, du tout. Alors j'ai créé l'association fin 2023. Je me suis battue comme un diable tout début 2024 jusqu'au mois d'août, avec vraiment le sentiment de ne pas avoir été entendu. La concertation, c'était vraiment... on n'a pas été entendu du tout. On a une pétition qui a marché énormément. Je l'ai remise en main propre à M. Aguilera, vice-président en région Rhône-Alpes. On n'a aucun retour. Impossible d'avoir des rendez-vous avec les élus locaux. Et donc, quand j'ai entendu vous mettiez Sur l'épuisement, le burn-out, je me suis vraiment sentie, parce que depuis septembre, j'arrive plus à me remettre en train, quoi. C'est décourageant. Décourageant, épuisant. Voilà. Je me sens vraiment concernée par ce burn-out.
Eh ben, merci beaucoup de votre témoignage. Raphaël Rémy-Leleu, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez de plus en plus souvent, peut-être ces dernières années, des gens autour de vous, des militants qui disent là, j'en peux plus, je fais un burn-out, je suis lessivée?
C'est quelque chose que j'entends déjà depuis longtemps, malheureusement, et qu'on entend en effet souvent, déjà simplement pour le rappeler, parce que la situation politique est de plus en plus dramatique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, je suis militante et élue écologiste, mais je suis aussi militante féministe initialement, et on a bien vu avec MeToo, on a vu avec cette irruption des femmes dans le militantisme, à quel point la réaction, le backlash pouvait être violent. Et en ce moment, on est face à un déni climatique, face à une réaction qui augmente, et à des violences, qu'elles soient sexistes, racistes, qui se structurent. Donc la société est de plus en plus dure. Donc le militantisme n'échappe pas à ça, ne serait-ce que parce qu'en tant que personne, on arrive dans le militantisme et on est déjà assez épuisé, en fait, de l'état du monde. Et c'est néanmoins l'état du monde qui nous motive à militer, à rejoindre cette communauté à la fois de pensée et d'action. C'est pour ça que je pense qu'il y a deux bouts à tenir, et c'est très peu évident. C'est à la fois de réussir à dire la vérité sur ce qui se passe, parce qu'on se doit cette exigence-là, qu'elle soit intellectuelle ou politique, mais de dire la vérité tout en disant aux personnes à qui on essaye de la partager, c'est pas parce que je vous donne cette vérité, que c'est l'état actuel des choses, qu'il faut se résigner. Mais au contraire, j'ai besoin de vous. Au contraire, c'est parce que c'est dur que chacune de vos actions, si petites vous paraissent-elles, a en réalité un impact qui peut être grandiose si vous nous aidez, parce que sinon on se retrouve dans le sentiment de solitude qui avait été évoqué précédemment.
Vanessa, Jérôme, ce qui est nouveau peut-être, c'est pas tant la fatigue militante que les personnes qui sont atteintes de cette fatigue militante, même les plus jeunes en fait, et ceux qui ne militent pas depuis très longtemps, témoignent de cette fatigue.
Oui, bon, c'est un invariant un peu hein, de l'engagement qui est toujours une forme de compromis finalement entre voilà les exigences qu'on a, les espoirs qu'on a, l'idéal aussi après lequel on court, et puis les résultats concrets qui sont souvent longs, pénibles, provisoires. Bon, donc c'est pas voilà le militantisme, c'est ça. Moi, ce qui me frappe dans les dernières années, c'est premièrement la violence. En effet, qui est croissante. Je pense qu'il y a toujours eu des militants fatigués, désespérés. On n'appelait pas ça du burn-out à l'époque, hein, mais cette espèce de mélange de « je suis fatiguée » et de « j'en ai marre », en fait.
Et je ne vois pas le résultat de mes efforts, c'est ça aussi.
Absolument, donc une espèce de fatigue à la fois physique, psychologique, pas que de fatigue, mais aussi de désespoir, voilà, ça prend différentes formes, on l'a toujours connu, mais en effet, moi, ce qui me frappe ces dernières années, c'est que ces formes de malheur militant ou de désespoir, même momentané militant, arrivent de plus en plus vite dans les trajectoires de militants, notamment chez les jeunes, et qu'elles sont de plus en plus, que les retours, les backlash sont de plus en plus violents. Voilà. Ça, clairement, ça signe, à mon avis, l'époque dans laquelle on se trouve, et qui est évidemment à penser, mais Raphaël Rémy le disait, avec l'état global de la situation politique du pays.
Alors, on va continuer avec un témoignage au téléphone avec nous ce soir. Marie-Laure Guislain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate de formation, vous avez été très engagée notamment pour le devoir de vigilance des multinationales, et vous l'avez dit, vous avez fait un burn-out militant.
Oui, ça fait 15 ans que je coordonne des actions judiciaires collectives contre des multinationales qui participent à la destruction de la planète ou la violation grave des droits humains. Et j'étais presque 9 ans à l'ONG Sherpa où j'ai fait ce burn-out, notamment du fait de la surcharge de travail. J'étais seule avec des stagiaires pendant longtemps pour gérer la rédaction et le suivi d'une dizaine de plaintes comme celle contre Vinci pour travail forcé au Qatar, Auchan, au Rana Plaza ou Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité. Au passage, il y a un livre sublime de Justine Ogier sur cette affaire Lafarge qui s'appelle « Personne morale ». Et la direction nous demandait d'aller toujours plus vite. Et j'ai aussi développé un autre syndrome d'épuisement qui est important, je pense, de citer ce soir. Grâce au collectif OXO, j'ai compris que j'avais aussi développé un syndrome qu'on appelle le stress vicariant ou encore le trauma secondaire par ricochet, qui est un syndrome en fait très courant chez les personnes, principalement en minorité de genre, qui sont confrontées à des récits de violence systémique en accompagnant des personnes traumatisées ou opprimées. Et depuis, j'ai étudié les facteurs d'épuisement et je me suis rendu compte que l'épuisement est un vrai fléau pour des millions de militants et dans tous les milieux militants, et qu'il est principalement causé par la reproduction du système néolibéral dans notre culture de travail militante, avec justement des injonctions à l'urgence, la productivité, les oppressions et les abus de pouvoir. Donc d'ailleurs, je préfère parler de burn-out néolibéral ou systémique plutôt que de burn-out militant. Et donc, pour sortir de cette culture du burn-out et mettre en place une culture du soin régénérative dans nos collectifs, notre association Allumeuse, avec un S.BZZ, a créé une équipe de 8 femmes, le Badass Soin, qui accompagne les collectifs sur le long terme pour diffuser des pratiques inspirantes. Par exemple, on explore comment sortir de la compétition entre organisations et apprendre à travailler en coalition avec d'autres collectifs pour gagner en impact et vivre vraiment de la joie militante, c'est-à-dire la joie de faire ensemble. Par exemple, on a co-créé un espace de travail qui s'appelle Droits et mouvements sociaux, dans lequel on a des groupes de travail comme justement en lien avec la loi Duplomb. On veut faire reconnaître l'écocide en droit français entre juristes et non-juristes. Donc, on travaille vraiment en coalition ou justement sur la répression des militants, justement. Ou encore, on a un groupe qui a mené des actions en justice contre les salons de l'armement, Eurosatory et Le Bourget, avec la coalition Guerre à la Guerre, pour empêcher d'accueillir des entreprises qui livrent des armes au Soudan, à la Russie ou à Israël, qui les utilisent ensuite dans sa campagne génocidaire à Gaza. Et donc, avec le Badass Soin, on a aussi en fait besoin d'explorer avec les collectifs comment mettre en place une gouvernance partagée pour ne pas reproduire le tout pyramidal ou le tout horizontal. Comment transformer les conflits et sortir de la reproduction du racisme, du sexisme, classisme que Raphaël citait. Ou encore, et enfin, comment mettre en place des temps et des espaces d'écoute, de lien, de feedback, de reconnaissance du travail de chacun et chacune, parce que ça, c'est vraiment le fuel de notre militantisme, et de célébration des étapes de travail. Vous le disiez tout à l'heure, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas d'impact. Donc, personnellement, j'ai vraiment besoin de voir les arbres qui poussent et non plus seulement ceux qui sont abattus pour garder du courage et de l'espoir. Par exemple, que si je travaille sur le génocide à Gaza, comme en ce moment, depuis des mois, je crois que c'est important de célébrer le fait que nos mobilisations dans la rue et judiciaire ont permis d'empêcher des entreprises israéliennes d'être présentes à des salons de l'armement pour nous encourager à continuer dans nos actions.
Il faut, j'entends ce que vous dites, il faut savoir reconnaître les victoires. Julien Talpin, on entend aussi dans ce que dit Marie-Laure Guislain, quelque chose d'intéressant, c'est que les mots qu'on peut avoir dans la vie professionnelle et dans le monde professionnel, on peut les retrouver aussi dans les organisations associatives ou syndicalistes. Il faut repenser dans les organisations les modèles.
Alors effectivement, j'ai envie de dire que tout est dit à l'instant dans les mots de Marie-Laure Guislain qui a égrené les différents facteurs d'épuisement militant qui peuvent être internes en fait au fonctionnement des organisations qui sont d'un côté et des associations en particulier qui sont de plus en plus professionnalisées et qui en même temps ont souvent affaire face à la précarité et donc qui peut conduire justement à une surcharge de travail aussi bien chez les salariés que chez les bénévoles. En même temps, on le voyait bien à l'instant dans ce témoignage, c'est qu'il y a une réflexivité croissante de la part des militants sur l'enjeu du care militant pour que justement les gens ne se désinvestissent pas, il faut peut-être parfois lever un peu le pied puis avoir des espaces qui permettent de mettre en discussion les conditions d'un bien-être militant pour que celui-ci ne s'épuise pas. Il y a un ouvrage récent de Sarah Durieux par exemple qui revient fortement là-dessus, et donc j'ai envie de dire que les choses progressent de ce point de vue-là. Malgré tout, en fait, les facteurs de l'épuisement militant ne sont pas qu'internes, et on l'a entendu dans les témoignages précédents, il y a un sentiment d'usure qui est lié à une résignation, à un sentiment de ne pas être entendu. Et je crois qu'il y a quand même aussi un État qui est de plus en plus sourd ces dernières années aux mobilisations sociales, une forme de fermeture des opportunités démocratiques où les mouvements sociaux, la rue, est de moins en moins entendue quand elle se mobilise. C'est pour ça que la décision du Conseil constitutionnel d'aujourd'hui est probablement importante, puisque là, les militants se diront probablement que la lutte peut malgré tout payer, et c'est souvent ça qui fait défaut. C'est la succession des défaites qui, à un moment, et on l'entendait, Nikita l'évoquait aussi au début, qui à un moment fait qu'on lâche l'affaire. Et donc, il faut des victoires pour continuer à s'investir corps et âme dans une cause. Et puis, dernier point, il y a le contexte politique d'une répression croissante de la mobilisation collective qu'elle émane de l'État et des institutions. On l'a beaucoup vu au moment des Gilets jaunes, mais c'est aussi vrai pour les associations de soutien aux exilés. Et ça accroît le coût du militantisme, et ça peut faire aussi démobiliser certains militants. Et cette répression n'émane pas que de l'État et des institutions, elle émane de la société elle-même. On parlait de violence à l'instant. Il y a les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, la violence physique aussi qui augmente dans la rue. Et donc, quand on met ça bout à bout, hein, à la fois les difficultés internes et le contexte politique de surdité croissante et de répression, effectivement, il faut être motivé pour continuer à militer. Je crois qu'il y aurait probablement, vous évoquiez en introduction l'enjeu de réfléchir à des solutions, en tout cas de changer de regard sur les militants et de voir combien ils sont indispensables au fonctionnement démocratique, et alors qu'ils sont parfois vus comme des cailloux dans la chaussure, de voir combien on a besoin d'eux pour faire fonctionner notre démocratie aujourd'hui.
Et alors, j'ai un message de Pierrot sur WhatsApp qui répond un petit peu à ce que vous disiez. Il dit « Je suis abstentionniste depuis des années, mais cette décision du Conseil constitutionnel m'a redonné foi dans la participation civique et j'irai voter désormais aux prochaines élections. » Nous sommes en ligne ce soir aussi avec Annie de Bretagne. Bonsoir Annie.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Alors, je vous appelais pour vous dire, d'abord, j'ai 75 ans et je milite depuis l'âge de 20 ans. J'ai milité dans des mouvements féministes, j'ai milité également dans des syndicats, je me suis engagée dans un parti politique pendant plus de 30 ans, et aujourd'hui, je suis élue. Et ce que j'entends et ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on est militant, on s'engage d'abord sur des convictions et des valeurs que l'on porte profondément en soi. Forcément, on rencontre des échecs, mais on rencontre aussi des victoires. Et forcément, il y a des moments qui sont un peu décourageants. Mais si on est toujours en accord avec ses propres convictions et avec ce que l'on croit être juste pour notre société, alors on a toujours l'énergie nécessaire pour continuer. En changeant parfois de lieu de militantisme, de cause de militantisme, mais on a toujours en soi cette énergie qui fait qu'on n'est pas vraiment découragé. Par contre, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est de toujours savoir garder des espaces personnels, de respiration personnelle, pour ne pas se décourager. C'est tout ce que je voulais vous dire.
Eh ben merci beaucoup Annie, c'est très intéressant. Raphaël Rémy-Leleu, je rebondis sur ce que dit Annie. Il y a peut-être des fois dans les organisations quelque chose qui un peu pousse à toujours donner plus. C'est comment dire ça ? Elle a dit il faut aussi prendre du repos, il faut aussi faire autre chose, il faut pas faire que du militantisme à 100%, c'est trop dur sinon.
De toute façon, les personnes qui peuvent faire du militantisme à 100%, c'est très rare. Oui. Parce qu'en fait, il faut quand même à côté soit étudier, soit travailler.
Un travail.
Faut trouver de quoi acheter la pitance. Déjà, merci beaucoup, Annie, parce que moi, les parcours de femmes comme ça qui militent depuis des années, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien à entendre et à écouter. Bien sûr, on peut avoir plein de manières différentes de militer, et c'est précieux. Aussi pour avoir ces espaces de respiration, ce fait de se dire que, par exemple, on peut être utile simplement en adhérant, pas forcément en militant. Mais quand vous appartenez à un collectif, que vous faites le geste symbolique, qui coûte d'ailleurs pas forcément très cher, mais le geste symbolique de venir renforcer l'organisation, eh bien c'est autant de soutien pour les personnes qui militent. De la même manière, sur les réseaux sociaux, on est face à des masses de négativité et de violence qui sont extrêmes, et donc juste un message positif, un partage, faut que les gens réalisent la force que cela peut avoir. Mais c'est vrai que les organisations, déjà, sont des organisations humaines, qui donc ne sont pas exemptes de tous les travers que nous connaissons et que nous avons cités, qu'il s'agisse du racisme, du classisme, du sexisme, etc., etc. Et qu'en plus, quand on est profondément convaincu, quand ça fait appel à nos tripes, à nos valeurs. Enfin, là, on a 17 000 hectares de forêt qui viennent de cramer, il y a de quoi pleurer. Quand on se dit qu'on est militante écologiste, finalement, on essaye de sauver le monde de l'humanité. Tâche un petit peu colossale. Quand on est militante féministe et qu'on se dit « bon, je vais me fixer un objectif plus raisonnable, d'ici la fin de ma vie, j'aimerais que le nombre de féminicides et de viols baisse dans ce pays », Oui, on peut être sidéré par l'ampleur de la tâche et ensuite se dire on va faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mmh. Et c'est là qu'il est important de se rappeler que c'est avant tout un engagement collectif et que ça ne peut pas, ça ne doit pas reposer sur une seule et même personne. Sinon, ça veut dire qu'on renoncerait nous-mêmes à une forme démocratique qui est importante. Et puis, sinon, on renonce également à notre santé mentale et physique, ce qui serait quand même très embêtant.
Peut-être pour revenir un instant sur la violence, tout à l'heure on parlait de cyberharcèlement. Est-ce que les femmes sont particulièrement exposées parmi les militants, militantes ?
Bien sûr, les femmes politiques ont, je crois que le chiffre c'est que les femmes politiques ont 30, sont 30 fois plus cyberharcelées que les hommes. Ça c'est mon témoignage très, très direct, très personnel, mais je n'ai pas la même vie politique qu'un de mes collègues masculins. Mmh. On se fait pas pourrir de la même manière, du coup on doit pas consacrer le même temps et la même énergie à la protection, à l'organisation de la protection, au dépôt de plainte, juste au moment de repos, parce que c'est difficile d'encaisser quand vous avez reçu des centaines et des centaines de messages d'insultes, de menaces de viol, de menaces de mort, de menaces de divulgation de vos données personnelles, enfin... C'est quelque chose qui est extrêmement violent, et cette violence-là, elle est concrète. C'est pas parce qu'elle est en ligne qu'elle n'a pas des conséquences concrètes sur le physique, sur le mental, sur la capacité à continuer le travail, au sens large du terme, et sur la capacité même à vivre de manière sereine. Ça crée des traumatismes et des souffrances qui sont les mêmes traumatismes et les mêmes souffrances que celles et ceux qui sont documentés lorsqu'on est victime de violences physiques en réalité.
Julien Talpin, vous avez particulièrement travaillé sur les quartiers populaires. Vous dites qu'il est très compliqué, peut-être encore plus qu'ailleurs, de militer dans ces milieux quartiers populaires.
Oui, effectivement, j'allais dire, effectivement, les femmes sont particulièrement ciblées, mais c'est vrai pour toutes les minorités, également les personnes non blanches, par exemple, et les militants antiracistes sont particulièrement la cible de cyberharcèlement. Et au-delà de l'espace des réseaux sociaux, effectivement, dans les quartiers, en banlieue, c'est dur de s'engager. Les attaques pour communautarisme, pour séparatisme, souvent complètement à rebours des actions qui sont effectivement menées par ces militants associatifs, sont souvent très, 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 très durement vécues, et ça marque au fer rouge les individus, ça a des conséquences sur la vie professionnelle. Moi, j'ai de nombreux enquêtés qui ont eu du mal après leur engagement associatif ou partisan à retrouver un travail ou qui ont eu leur carrière bloquée, et ça a des effets par ricochet sur la génération d'après. Les plus jeunes ont parfois des réticences à s'engager quand ils voient le sort qu'ont pu connaître leurs parents, leurs cousins, leurs oncles ou leurs frères et sœurs, et ça c'est un vrai problème, je crois. Ces coups du militantisme peuvent décourager d'autres par ricochet, parce que ça laisse des traces sur les corps, sur les psychés et sur la vie professionnelle.
Vanessa Jérôme, c'est vrai que c'est ce que dit Julien Talpin, que ça peut avoir des conséquences sur la vie professionnelle. On a pas mal de témoignages que l'on lit qui disent que le militantisme aujourd'hui est un peu un repoussoir, et notamment dans le monde du travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau, ou est-ce que ça a toujours existé ?
Non, ça a toujours existé, mais ça dépend des périodes. Je crois qu'il faut regarder, le militantisme s'est fait de flux et de reflux, à la fois dans les biographies des individus, à l'échelle d'une vie. On ne s'engage pas tout le temps de la même manière. Des fois, là, il y a des temps biographiques dans lesquels on est moins disponible, quand on a des jeunes enfants ou quand on vient prendre un poste. Bon, ce n'est pas la même chose que quand on est à la retraite, etc. Donc, il y a des temps biographiques qui sont différents, et puis il y a des temps politiques qui sont différents. Et moi, ce qui me frappe, c'est le temps dans lequel on est maintenant, et qui est aussi qui rend la vie des militants compliquée, c'est que la politique est très délégitimée et très décrédibilisée. Ça fait un bon moment que militer, c'est plus cool, c'est pas, surtout dans le monde politique. Si dans les années 70, vous n'étiez pas dans une orga, vous étiez ringard. Maintenant, faire de la politique, c'est par essence, ou militer pour une cause, c'est s'exposer à des formes de moquerie, de décrédibilisation, qui évidemment sont aggravées par les échecs militants. Et les coûts, du coup, sont d'autant plus importants sur la vie professionnelle, mais aussi sur la vie familiale ou sur la vie amoureuse. Moi, j'ai beaucoup croisé lors de mon enquête de thèse, de militants écologistes, qui sont ceux qui, visiblement, divorcent le plus, parce que le militantisme écologiste est extrêmement exigeant. Ça nécessite de transformer ses pratiques au quotidien, de changer ce qu'on mange, ce qu'on achète, etc. Et s'il y en a un seul dans le couple qui milite, ou dans la famille, et que tout le monde n'est pas aligné sur les mêmes valeurs, c'est très coûteux. Donc je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ces flux et dans ces reflux, parce que personne ne peut donner tout tout le temps, dans tous les moments et dans toutes les circonstances. Il faut compter sur des formes de relais, pas que de préservation de soi. Moi, je trouve ça aussi très, une vision très néolibérale, hein, de tout faire porter sur l'individu. La responsabilité, elle est collective. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver non seulement des espaces de préservation personnelle, mais aussi des moyens de se passer le relais. Et dans les formes de violence aussi, il y a des formes de solidarité. Enfin, je veux dire, les féministes sur les réseaux sociaux depuis MeToo n'ont jamais été autant attaquées, y compris physiquement, décrédibilisées, violentées, etc. Et en même temps, MeToo, c'est des formes de solidarité aussi, de création de communautés, de valeurs, de soutien qu'on n'avait pas connues aussi. Donc, c'est jamais ni tout noir, ni tout blanc. Voilà.
Nous sommes en ligne avec Irène. Bonsoir, Irène.
Oui, bonsoir. Dites-nous. Oui, merci d'avoir pris ma question et bravo, l'émission est vraiment très intéressante. Je crois qu'elle était vraiment nécessaire, là, tous les intervenants et vraiment des points de vue. Voilà, c'est super. Alors moi, je dis que je suis activiste et militante pour les animaux, notamment, même si je suis aussi militante écologiste à Gonesse, pour les terres de Gonesse. Et je crois que, certes, le militantisme, c'est fatigant, on se prend des coups, on se prend des claques, on est comme des sisyphes sur le rocher, là, comme l'a dit l'un des intervenants. On a des résultats et tout d'un coup, ça retombe, il y a des dérogations dans la loi. Mais en même temps, moi, c'est ce qui m'empêchait de sombrer, parce que quand je voyais toutes les horreurs sur les vidéos d'F214, sur les abattoirs, sur les pêcheries et tout ça, je pouvais pas rester assise dans mon canapé. Et le fait de signer des pétitions, de contacter des élus, de faire des dons à des sanctuaires, de tracter dans la rue, alors là, on se prend des réflexions pas toujours très agréables, mais vraiment... voilà, je me sens mieux comme ça que de rester, que d'être dans le défaitisme, le fatalisme, voilà. Mais bon, l'émission explique bien qu'en effet, c'est fatigant, ça peut vraiment casser des gens et il faut s'autoriser des breaks. Voilà.
Et ben merci beaucoup Irène, Raphaël, Rémi Leleu. Le militantisme, ça peut aussi, en fait, c'est ce que dit Irène, ça peut aussi nous faire du bien, ça peut aussi même nous sauver peut-être d'une certaine forme de désespoir.
Bien sûr, ça peut être épanouissant parce que c'est cette communauté, vous découvrez des personnes qui finalement vous rassurent aussi sur l'aspect « Ah non, en fait, c'est pas juste la petite voix dans ma tête qui me dit que la situation est intenable et insupportable. Nous sommes plusieurs à penser ça et à vouloir changer les choses. » Donc ça, c'est la création d'une solidarité et d'une réassurance qui est extrêmement importante. Et puis j'irais même un cran plus loin, et peut-être sur un registre moins léger, mais moi je pense que le militantisme peut sauver des vies, très concrètement. Moi j'ai été victime de violences conjugales et d'une tentative de féminicide. J'étais déjà militante féministe. Alors c'est un peu l'ironie du sort, mais plus que ça en réalité, c'est parce que j'étais militante féministe que je m'en suis sortie. Et c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui militent dans ces domaines-là, que chaque année, il y a des femmes et des enfants qui sont sauvés de violences physiques, de violences sexuelles. Donc, il faut aussi prendre toute la mesure de ce que parfois l'engagement peut faire. Et si c'est juste sauver une vie, je pense que la vie humaine n'a pas de prix et ça valait déjà la peine. Après, ce qui est vrai, c'est que le militantisme se déploie dans tous les champs de la société, qu'il n'est pas forcément toujours compris ou même considéré. Et on a beaucoup tourné autour du parallèle avec les élus. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Si vous avez en face de vous un ou une élue qui vous dit qu'elle n'est pas militante, qu'il n'est pas militant, c'est un problème, parce que c'est un engagement normalement pour l'intérêt général, pour quelque chose de plus grand que soi, et on est confronté aux mêmes choses, parfois au mépris, au désespoir, puis au manque de moyens, parce que disons-le aussi en France, finalement, que ça soit pour la démocratie ou le militantisme, on n'a plus beaucoup d'argent.
Julien Talpin, est-ce que vous pensez que la perception du militantisme peut changer de nouveau, elle est dans un meilleur sens qu'elle n'est aujourd'hui ?
Alors ça dépend de qui on parle. Je pense que chez les militants eux-mêmes, et on l'entend là dans les différents dans les différents témoignages, qu'il y a une sorte de réalisation de soi et d'épanouissement dans ces causes collectives. C'est peut-être du côté des institutions, effectivement, où il faudrait changer de regard. Il y a des conditions matérielles, Sarah c'était évoqué à l'instant, voilà, qui sont très très compliquées. Et donc, je crois que changer de regard, c'est à la fois une dimension dimension symbolique à prendre en compte, et puis également des moyens qui permettent aux gens de militer tranquillement. C'est aussi une acceptation du désaccord, d'une certaine façon. Je crois qu'on a, dans toutes les violences dont on a parlé au cours de l'émission, une difficulté croissante aujourd'hui en France et au-delà, dans de nombreux pays du monde, à accepter le désaccord. Et la violence, elle vient aussi de cela, à ne pas être en capacité de délibérer ou de dialoguer ou d'échanger avec des gens avec lesquels on n'est pas en parfait accord. Et donc, voilà, il y a tout un ensemble de leviers à actionner, mais je pense que les pouvoirs publics pourraient jouer un rôle important de ce point de vue-là. Il y a des réflexions aussi sur les formes de congés militants, par exemple, qui peuvent contribuer à encourager le militantisme. Et on a besoin, je crois, d'aller dans cette direction-là au regard de la crise démocratique très profonde que l'on continue à vivre.
Un message de Sandrine sur WhatsApp. Je suis très écologiste, mais le militantisme n'est pas adapté à mes valeurs. Je suis pour la discussion, mais je trouve que le milieu est trop violent. Vanessa Jérôme, c'est quelque chose que ça vous entendez? Une critique peut-être, moi, des fois, j'entends du purisme militant, d'un trop, quelque chose qui serait trop.
Oui, absolument. Bah, c'est un petit peu dans l'essence même du militantisme, hein, dont on a donné une vision très sacrificielle, en fait, depuis toujours. Et on la donne d'autant plus que c'est aussi valorisant pour les militants, à un moment donné, de romantiser aussi leur engagement. C'est aussi une manière de s'y attacher, de le rendre désirable pour les autres. Et c'est pas complètement un mensonge, parce que c'est vrai que quand on milite, on donne beaucoup de soi, de son temps, de son énergie, de plein de choses, et avec des risques qui sont ceux qu'on a, ou des sanctions qui sont celles et ceux qu'on a déjà mentionnées. Malgré tout, je pense qu'il y a des formes de préservation de l'idéal. C'est à ça que les militants tiennent. Cantani disait tout à l'heure, moi je milite depuis toujours. En gros, il y a des hauts, il y a des bas, et puis voilà. Donc il y a des gens comme ça qui ont le militantisme et l'engagement chevillé au corps, et il peut se passer n'importe quoi ou presque, et ils seront toujours là, et puis d'autres que ça n'intéressera jamais, que ça ne tentera jamais, pas nécessairement par mépris, mais voilà, parce que c'est pas leur mode d'expression. Moi, ce qui me semble intéressant, je voulais rebondir sur ce que Julien Talpin disait, je crois qu'il y a un vrai problème démocratique, il y a une crise profonde de la démocratie en ce moment, des institutions, ça touche pas seulement la France, hein, bien loin de là, et je pense que là, on est vraiment dans un moment qui est un peu charnière. Moi, j'interroge beaucoup de jeunes militants écologistes, et beaucoup, je ne sais pas si c'est de plus en plus, parce qu'il faudra avoir des données un peu internationales, mais en tout cas, beaucoup me disent, au bout d'un moment, on va finir par être violent avec la violence. C'est-à-dire, on va perdre cette capacité dont Julien Talpin parlait, à ne pas être d'accord, mais dans des formes démocratisées, pacifiées, et la rançon un petit peu des échecs, des frustrations, des fatigues et de cette crise démocratique, c'est peut-être aussi la radicalisation et des formes de violence militante qui vont se trouver légitimées.
Merci Vanessa Jérôme. On va terminer là-dessus, il y aura encore plein de choses à dire sur le militantisme. Merci beaucoup à nos invités, Raphaël Rémy Leleu, militante écoféministe et conseillère de Paris écologiste, Vanessa Jérôme, docteur associée au CESSP, et Julien Talpin, chercheur au CNRS. Demain au téléphone sonne, on parlera de toute autre chose, du camping